C'est impossible que tu sois passé à côté de ça. Notre cher ex-président, monsieur Nicolas Sarkozy, qui est impliqué dans 1 million d'affaires de justice. Et du coup, il y en a une sur laquelle je voulais revenir avec toi cette semaine. C'est pas la plus actuelle. Il n'y a toujours pas de date de procès qui a été fixée. L'enquête n'est pas terminée. Mais ça imbrique tellement de choses, tu vas voir, et ça vaut putain de détour. Bon, comme tu sais probablement, monsieur Sarkozy a été mis en examen le 21 mars 2018 pour financement illégal de campagne électorale. Non, ce n'est pas l'affaire Bimalion à laquelle je fais référence. Corruption passive. Non, non, c'est pas l'affaire des écoutes non plus. Même si pour celle-ci, c'est corruption tout court. Et recel de détournement de fonds publics libyens. Tout à fait. C'est bien la fantastique histoire d'amitié entre monsieur Sarkozy et monsieur Muammar Kadhafi dont j'avais envie de te parler. Mais juste avant, je t'explique un peu le topo du comment monsieur Sarkozy est mis en cause et on fait aussi le point sur toute la petite clique avec qui il faisait équipe. Bon, pas exactement parce qu'il y en a quand même beaucoup des protagonistes, mais j'ai sélectionné les plus croustillants. Donc, en gros, si tu veux, des valises remplies d'argent qui se comptent en plusieurs millions d'euros auraient circulé de la Libye vers la France entre fin novembre 2006 et le début de l'année 2007. Tout pile pendant la campagne électorale de M. Sarkozy, donc. Et lorsqu'on a interrogé son trésorier, Eric Worth, qui est mis en examen pour complicité de financement illégal de campagne, il a effectivement reconnu avoir distribué plusieurs dizaines de milliers d'euros en cash à leurs salariés. De l'argent qui serait, selon ses propres mots, comme « tombé du ciel ». Ah, c'était important de préciser que M. Worth est aujourd'hui président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale.
Cette bande de mafieux.
Et puis, t'as aussi M. Claude Guéant qui rentre en jeu. Alors lui, c'était son directeur de campagne, après que Jacques Chirac lui a refusé le poste de préfet de police. Il a aussi auparavant été directeur de cabinet à ses côtés, et M. Sarkozy le nommera plus tard ministre de l'Intérieur. Lui, il est mis en cause dans toute cette affaire pour deux raisons principalement. Tu as déjà le fait qu'entre 2003 et 2013, selon les enquêteurs, il ne retire que 800 euros. C'est peu quand même en 10 ans. Mais que des données prouvent qu'il aurait au minimum utilisé 200 000 euros. Et là, je ne fais même pas référence au virement suspect de 500 000 euros sur son compte quelques jours avant l'achat d'une villa. On sait aussi que M. Claude Guéant se serait rendu 7 fois dans un coffre-fort qu'il avait loué entre mars et juillet 2007. Tout pile pendant la campagne, donc. Lorsqu'il a été interrogé là-dessus, il explique qu'il y stockait des archives personnelles de M. Sarkozy, notamment ses discours. Ce que va démentir sa femme plus tard, en déclarant que ses discours étaient consultables électroniquement et qu'elle aussi, elle y avait accès. Le coffre-fort pour stocker ce qui était accessible aux yeux de sa femme, c'est un peu difficile à gober du coup. Ensuite, tu as Ziad Takieddine, l'un des principaux témoins à charge contre Sarkozy. Bon, qui depuis le 11 novembre dernier a retiré ses accusations et mis en examen pour avoir remis ses valises. Il a aussi fait de la détention provisoire dans le volet financier de l'affaire Karachi. Il était, tiens, porteur de valises du camp Balladur. Ou, tiens, M. Sarkozy en était le porte-parole. M. Takieddine, c'est l'homme de l'ombre, celui qui facilitait les gros contrats, notamment dans l'armement. Il avait par exemple mis en relation, dès 2006, la Libye et l'entreprise française Amesis, dont la mission était de former les services secrets de M. Kadhafi à la surveillance des communications des populations. Du pain béni, ça, par ailleurs, pour un dictateur face au printemps arabe quelques ans plus tard. Et puis, t'as l'ex-bras droit de M. Kadhafi, le chef du renseignement militaire libyen, Abdallah Senoussi, qui aurait été l'un des intermédiaires des millions échangés. M. Claude Guéant le réceptionne aussi une fois en France, par ailleurs. Donc, ce gars-là, il avait été condamné par la justice française pour son rôle dans l'attentat de 1989 contre le DC-10 qui a fait 170 morts, dont un tiers était français. Et une révélation de 2018 prouve que dès novembre 2005, des proches de M. Sarkozy ont tenté de faire annuler sa condamnation. Son propre avocat à M. Sarkozy s'était même rendu à Tripoli avec l'avocat des victimes de l'attentat. Abdallah Senoussi finit même par lâcher devant la CPI, la Cour pénale internationale, parce qu'aussi poursuivi pour crime contre l'humanité, ayant participé à la répression avant la chute de Kadhafi, en 2017, que 7 millions d'euros avaient effectivement été virés par la Libyan Foreign Bank sur instruction de la Banque centrale libyenne pour la campagne de Sarkozy. Est-ce qu'il faut encore plus faire dans l'obvious? Pour ça, nous avons M. Choukri Ghanem, ministre du pétrole au temps de Kadhafi. Il avait pris l'habitude, dans ses petits carnets, récupérés par les juges en juin 2015, de tout consigner. Il exprime notamment ses doutes quant au financement qui serait insuffisant pour réellement orienter la politique de la France. Et attends, il y a mieux. Son corps est retrouvé dans le Danube, à Vienne, en avril 2012.
Tu devais juste piquer une tête.
Ses proches n'ont jamais cru à une mort accidentelle. Ils ont témoigné sur le fait qu'il était devenu très prudent, méfiant. Même l'ambassade des États-Unis à Benghazi, en Libye donc, estime que cette mort demeure hautement suspecte. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle est arrivée le lendemain du meeting de M. Sarkozy, lorsqu'il était en campagne pour un deuxième mandat, qui avait été annulé après des révélations juteuses. Mediapart avait donc publié ce jour-là un document officiel libyen, rescapé des bombardements, établissant une promesse par le régime de financement de sa campagne à hauteur de, accroche-toi, 50 millions d'euros. Suite à quoi, M. Sarkozy porte plainte pour diffamation, mais la justice confirme l'authenticité du document. Bon, maintenant, je te parlais de sa profonde amitié avec M. Kadhafi. Nicolas Sarkozy le rencontre en octobre 2005. L'émissaire diplomatique pour le dossier les plus sensibles en Libye, Ahmed Kadhafi Al-Dam, témoignera plus tard, en 2014, de la discussion entretenue. M. Kadhafi misait gros sur Sarkozy. Il espérait de lui qu'il les fasse revenir sur la scène internationale et qu'il soutienne son projet des États-Unis d'Afrique. Parce que ses rêves étaient très grands aussi. Il voulait s'affranchir du FMI ou de la Banque mondiale pour que le continent africain puisse avoir ses propres institutions monétaires. Sauf que M. Sarkozy n'avait pas exactement la même chose en tête. Lorsque c'est au tour de M. Kadhafi de poser le pied en France, en décembre 2007, il signe des contrats qui atteignent le montant de 10 milliards d'euros. Ce qui signifiait la création de 300 000 emplois sur 5 ans en France, dépensés dans des avions d'assaut, des hélicoptères et des armes françaises, et tout plein d'autres choses. Il avait également investi dans la Société Générale en plaçant des millions, et 600 millions se sont par ailleurs mystérieusement évaporés. Sauf que M. Kadhafi ne tient pas ses promesses. Il hérite beaucoup aussi, et pas seulement la France. En annonçant par exemple en 2009 sa volonté de nationaliser l'industrie du gaz et du pétrole, ou en lançant un an plus tard un satellite de télécommunication africain dans l'espace. Parce qu'avant ça, le continent devait louer des satellites européens pour communiquer. Ça a fait perdre à l'Europe l'équivalent de 500 millions de dollars par an. Et surtout, le sujet qui fâche inévitablement, M. Kadhafi voulait créer une devise pour le continent qui aurait été indexé sur l'or pour remplacer le dollar et le franc CFA. Là, ça devient tendu. La France, et par extension l'Europe, aurait perdu le contrôle monétaire exercé sur 14 pays africains. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le franc CFA, mais je vais essayer de l'expliquer brièvement. En gros, il est défendu comme permettant à toutes ces économies africaines d'éviter l'inflation et la parité fixe à la devise européenne permet d'atténuer la facture des importations de pétrole et de matières premières agricoles, qui, elles, sont libellées en dollars. Certes, mais du coup, ces économies ne développent pas leur industrie, ne modernisent pas leur agriculture, parce que ça leur revient moins cher de tout importer. Entre eux, leur commerce est faible parce qu'ils produisent souvent les mêmes matières premières. Et clairement, le fait que l'intégration monétaire ait précédé l'intégration économique, contrairement à l'Europe, c'est pas une réussite. Ce n'est pas pour rien, les économistes sont du même avis, que 11 des 14 pays africains de la zone franc sont aujourd'hui classés parmi les pays les moins avancés. Les taux choisis ne sont pas adaptés. Et puis, comme leurs réserves de change sont bloquées au trésor français, ce qui serait amené à changer, mais l'affaire est à suivre, ils se trouvaient obligés d'emprunter auprès du FMI. C'est ce genre d'émancipation auquel M. Kadhafi rêvait. Il avait une fortune colossale, cet homme, qui dépassait les 200 milliards de dollars. Il pouvait rêver grand. Puis, les printemps arabes éclatent et s'étalent en Libye à la mi-février 2011. Gros coup de poignard pour M. Kadhafi quand le gouvernement français reconnaît le 10 mars le Conseil national de transition libyen, soit l'opposition, comme seul représentant légitime. Il contre-attaque 6 jours plus tard en parlant à une journaliste du Figaro. Mauvais plan. Si on a en tête le propriétaire du journal, M. Serge Dassault, du fameux financement pour la campagne de 2007. Ça ne fera, sans surprise, l'objet que de quelques lignes en bas de page. Et le lendemain, à l'Assemblée générale des Nations unies, la résolution 1973 est adoptée. Elle permet de bombarder les avions de Kadhafi s'il décolle. S'en suivent 7 mois où 7700 bombes et missiles s'abattent sur le pays. Et le 30 avril, une seule maison est bombardée, celle de Muammar Kadhafi. Pratique, ces printemps arabes, non ? Bien entendu, les archives du régime sont parties en fumée. Sauf le document officiel qui a été retrouvé par Mediapart. Monsieur Kadhafi gardait aussi des enregistrements audio de conversations avec des dirigeants du monde entier qui ont été détruits. Son ex-conseiller diplomatique a même assuré que des insurgés et des forces spéciales françaises sont venus récupérer des documents importants pour les sortir du pays. Quand t'entends Monsieur Sarkozy déclarer sur France 1 qu'il a été le seul chef d'État qui s'est battu
pour que ce dictateur parmi les plus sanglants qu'ait connu le XXe siècle ne puisse plus continuer à imposer la terreur à son peuple.
Et que tu regardes à quel point les Libyens se sont fait lâcher dans un marasme de tarés, quand tu regardes ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passe en ce moment en Libye, t'as clairement, au moins un peu, soyons honnêtes, l'envie de lui cracher à la gueule.
Quelle indignité.